Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il est rabbin, fondateur de l'association Les Voix de la Paix, et vient nous livrer un cri d'amour pour la France. Il publie « Heureux comme un juif en France », une réflexion pleine d'espoir, même si l'antisémitisme reste l'un des cancers, nous dira-t-il, de notre société. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix, la saleté à Paris, réalité ou instrumentalisation politique, on en parlera, alors qu'un hashtag fait grand bruit en ce moment sur les réseaux sociaux. 19h15, la carte blanche de Philippe Besson. On connaît déjà les gagnants des régionales, nous dira-t-il. Vous comprendrez pourquoi. Et puis 19h20, le Club des Idées. Grand débat ce soir sur le phénomène du cannabis. Un nouveau produit autorisé fait fureur depuis quelques temps, le CBD. Du cannabis sans psychotrope, les points de vente se multiplient et ça génère un gros business. Ça détend, mais sans plus. Alors faut-il tous se mettre à la fumette autorisée ou à la tisane au chanvre? À qui profitent aussi les millions que tout cela génère? On en parlera avec nos invités et vos témoignages. Voilà pour le programme. D'abord, toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On va dans les Alpes au-dessus de Grenoble. On va se confiner avec, pour que les enfants soient au vert et que leur mamie s'en occupe pendant que nous on travaille. On télétravaille, ouais, de là-bas.
Route chargée, gare bondée. Visiblement, les Français ont profité à fond de ce dernier long week-end. Et certains, ce soir encore, s'engouffrent dans les derniers trains pour partir. Attention, à partir de demain, ce sera tous à la maison.
Pour ce qui est de tous vaccinés, en revanche, c'est pas pour tout de suite.
Et des médecins déplorent que les doses d'AstraZeneca aient été boudées ce week-end dans le Nord-Pas-de-Calais.
Dans le journal, on vous dira aussi comment avoir une chance de recevoir la précieuse injection, même si vous n'êtes pas prioritaire.
Les nouvelles révélations ce soir de Monique Olivier dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. L'ancienne compagne de Michel Fourniret aurait reconnu pour la première fois avoir joué un rôle dans la séquestration de la petite fille dans les Ardennes.
Une nouvelle accusation contre Pierre Ménès. Sur Europe 1, l'actrice Alice Belhaidi accuse le journaliste de propos racistes et sexistes.
Une nouvelle aide financière pour Air France, validée par Bruxelles. Mais attention, en contrepartie, la compagnie devra abandonner certains créneaux. Et puis jackpot pour 18 sites historiques en péril. Ils seront restaurés grâce à la nouvelle édition du Loto du patrimoine.
Un coup d'œil à la météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Ambiance hivernale demain.
Oui, les températures vont baisser encore demain matin avec de nombreuses gelées. Les fameux flocons dont on parle depuis plusieurs jours, ils seront bien là demain après-midi sous forme de giboulées. Et dans le sud, le vent devient tempétueux. Les détails de ce programme peu réjouissant à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence avec l'information de la soirée, on l'a appris il y a quelques minutes, donc ces nouvelles révélations de Monique Olivier ce soir dans l'affaire de la disparition de la jeune Estelle Mouzin.
Oui, Justin Morin, l'ex-compagne du tueur en série Michel Fourniret aurait donné des indications qu'elle n'avait jamais données jusqu'à présent.
Oui, effectivement, elle a reconnu avoir eu un rôle dans la séquestration de la jeune fille dans les Ardennes. C'est France Info qui nous l'apprend il y a quelques minutes. C'est une nouvelle avancée majeure dans ce dossier parce que ce sont des déclarations qu'elle n'a jamais faites jusqu'à présent. Michel Fourniret, lui non plus, n'avait jamais parlé de la présence de Monique Olivier dans les Ardennes. L'ex-épouse du tueur en série a fait ses déclarations en fin de semaine dernière à la juge Sabine Kéris en charge de l'enquête. Pour mémoire, de nouvelles fouilles avaient été menées quelques jours avant. C'était en début de semaine dernière, sans résultat. D'après l'avocat d'Éric Mouzin, Monique Olivier a précisé sa participation et son rôle. De nouvelles indications qui vont permettre de lancer de nouvelles recherches. Dès demain, elles vont recommencer dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Merci beaucoup. Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
On en vient à présent à cette dernière respiration avant de se confiner et d'attaquer l'école à la maison. Le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques touche à sa fin.
Et c'est une nouvelle salve de restrictions qui démarre pour tenter de freiner l'épidémie. À compter de demain, les déplacements entre régions ne sont plus autorisés que pour des raisons impérieuses.
Oui, c'est une...
Vous êtes nombreux maintenant
êtes
à profiter.
À avoir profité. J'ai du mal à suivre ce soir. Pardon, c'est lundi de Pâques, de ces dernières heures de liberté, à en croire la circulation sur les routes et le trafic dans les gares. Jean-Jacques Herry, vous vous trouvez... Gare de Lyon à Paris. Alors il y a ceux qui rentrent, mais il y a aussi ceux qui partent.
Oui, comme Barbara, ses deux enfants et sa grosse valise qui fuit Paris à toute vitesse dans les couloirs de la gare de Lyon.
On va dans les Alpes au-dessus de Grenoble. On va se confiner avec pour que les enfants soient au vert et que leur mamie s'en occupe pendant que nous on travaille. On télétravaille, ouais, de là-bas.
Et ces départs au dernier moment, au dernier soir du week-end de Pâques, surprennent ceux qui, dans l'autre sens, rentrent se confiner 4 semaines dans leurs 10 km parisiens. comme Alice et Paul qui ont pu profiter de ce week-end de tolérance dans les transports pour passer 3 jours à Toulon.
Il fallait rentrer et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui partent, qui quittent Paris pour s'exiler.
On n'a pas été contrôlé une seule fois. Du coup, c'est vrai qu'il y avait un certain flou, c'était même assez nébuleux hein, concernant la tolérance, mais on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire.
En tout cas, ici, on n'observe pas de spleen particulier chez les voyageurs en transit. Il y a une sorte d'habitude qui s'est installée, une résilience lasse chez Hermine, qui a passé le week-end de Pâques chez ses parents et qui se retrouvera ce soir dans son appartement de la cité phocéenne.
J'ai vu mes parents du coup à Paris ce week-end et là, je rentre me confiner à Marseille.
Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Y a pas trop de confinement. Enfin, à Marseille, ça va le confinement, donc moi, ça change pas grand-chose.
On va rester dans les 10 km, quoi.
Oui, voilà, c'est pas trop compliqué, ça va. Moi, ça me dérange pas du tout, donc ça va.
Et ça va d'autant plus que dans leur valise, beaucoup transportent un antidépresseur naturel qu'on peut facilement obtenir sans ordonnance. Des œufs de Pâques en chocolat.
Jean-Jacques Rigard de Lyon à Paris pour Europe 1. Des doses de vaccins qui sont là, mais des milliers de Français qui n'en veulent pas. Résultat, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, des centres de vaccination ont dû fermer. Les médecins se désolent d'avoir terminé le week-end avec des centaines de doses non utilisées.
Oui, à Calais, à Boulogne-sur-Mer ou encore à Gravelines, dans ce dernier centre, 600 doses n'ont pas pu être administrées. C'est considérable.
Et le docteur Thierry Mraouvic, qui coordonne ce centre, regrette beaucoup cette défiance.
Je suis en colère parce qu'en fait, la communication est tellement faite dans un sens unique que voilà, les patients sont méfiants et on peut le comprendre. En colère puisqu'en fait, c'était un week-end où on pouvait encore faire de la primo-injection alors qu'à partir de la semaine prochaine, on va être dans les rappels. Donc colère parce qu'en fait, 600 doses vont repartir à la pharmacie. Alors, ils ne sont pas perdus, bien évidemment, mais ils vont être restitués à la pharmacie de l'hôpital et donc peut-être distribués dans la région et pas utilisés pour la population du littoral. Et déçu parce qu'en fait, la trentaine de personnes qui étaient sur le centre pour le faire tourner, médecins, infirmiers, secouristes, secrétaires, sont restés dans l'attente de rendez-vous qui ne sont pas arrivés. Ce que je veux rajouter, c'est que ça reste un vaccin tout à fait satisfaisant et qu'il faut absolument refaire adhérer la population à ce vaccin-là.
Le coordinateur du centre de vaccination de Gravelines au micro européen de Maximilien Carlier. Aujourd'hui, le ministre de la Santé redit qu'il n'y a pas de raison d'être méfiant envers le vaccin AstraZeneca. La balance bénéfice-risque est très positive, rappelle une nouvelle fois Olivier Véran.
Vacciner 30 millions de Français d'ici l'été, c'est donc l'objectif du gouvernement. Pour cela, dès demain, les autorités pourront compter sur une nouvelle arme, les vaccinodromes.
Oui, stade de foot à Paris ou à Lyon, parc des expositions à Toulouse, ça devrait permettre d'accélérer considérablement le rythme. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de créneau de vaccination, Virginie Salmen, il y a peut-être une solution, même si on n'est pas forcément prioritaire et éligible dès à présent. Un site internet permet d'être alerté s'il reste encore des doses près de chez vous.
Oui, c'est un site très simple, une sorte de listing sur lequel on enregistre ses coordonnées. Ça s'appelle Covid List. Grâce à votre adresse, vous êtes alerté si un hôpital ou un centre de vaccination près de chez vous a quelques doses restantes au fond d'un flacon en fin de journée, en général aux alentours de 18h. Alors attention, il faut être en mesure de venir immédiatement. Le site a été lancé il y a tout juste 4 jours avec 2 médecins de l'hôpital Foch de Suresnes, près de Paris. Il y a déjà plus de 160 000 inscrits selon les créateurs de Covid List. Les 11 premiers volontaires ont été vaccinés ce week-end dans un centre du 20e arrondissement de Paris grâce à une soignante qui avait entendu parler du site et qui l'a utilisé pour recruter des patients à la dernière minute. Pour l'instant, c'est assez artisanal. Ils ont reçu des doses du vaccin Pfizer-BioNTech et avaient plus de 75 ans. Ils repartent avec un rendez-vous pour la seconde dose. Une vingtaine de centres de vaccination sont référencés. Des centaines, voire des millions de doses pourraient éviter la poubelle si l'initiative prend de l'ampleur. Jusqu'ici, le gouvernement tablait sur 25 à 30% de doses perdues pour des problèmes de logistique, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions.
Les précisions de Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Et puis ça fait rêver un vue de France alors que nous nous reconfinons. Le Portugal, lui, a rouvert aujourd'hui ses musées, ses terrasses de café et ses collèges. En Grèce, les commerces non essentiels peuvent dès aujourd'hui accueillir leurs clients, mais sur rendez-vous. Tandis qu'en Grande-Bretagne, on prépare le retour des voyages vers l'étranger. Boris Johnson doit ce soir annoncer un système de feux tricolores avec apparemment un classement des pays du vert au rouge.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite du journal. Un conseil d'administration se tient donc en ce moment chez Air France. Au menu des discussions, l'accord de principe trouvé entre l'État français et la Commission européenne pour un nouveau soutien financier.
Oui, on sait que la compagnie aérienne va mal, hein, comme l'ensemble du secteur aérien d'ailleurs. Cette aide est donc capitale, hein, pour Air France, Clément Le Saffre, mais Air France va devoir en contrepartie sans doute y laisser quelques plumes. Hein.
Oui, Bruno Le Maire a été très clair hier, cette aide n'est pas un chèque en blanc. Air France va devoir se transformer avec des contreparties classiques, si je puis dire, hein, amélioration de la compétitivité et réduction des émissions de CO2, mais il y a une nouveauté. Cette fois, Air France pourrait être contrainte de céder des créneaux de décollage et d'atterrissage à Orly. Moins de 24, a indiqué le ministre de l'économie. Le nombre exact sera débattu là pendant le conseil d'administration. Mais Vincent Salle, secrétaire général de la CGT Air France, est vent debout contre cette idée.
C'est ce qu'il y a de plus précieux pour une compagnie aérienne. S'en séparer, c'est se couper d'une partie de l'activité. Et la céder au marché de l'aérien, c'est donner cette activité-là à nos concurrents, qui pour nous est en contrepartie inacceptable. Alors Bruno Le Maire le présente comme une grande victoire en disant qu'il n'y aura pas plus de 24. Mais bon, au final, ils ont cédé.
Reste à savoir exactement ce qu'Air France obtiendra en échange de ces précieux créneaux. Bruno Le Maire a évoqué un nouveau soutien financier, mais selon la CGT, il pourrait s'agir plutôt d'une opération comptable. Un prêt de l'État de 3 milliards d'euros accordé à Air France il y a un an au début de la crise serait transformé en recapitalisation. Ce n'est pas exactement la même chose. Cette hypothèse était évoquée depuis plusieurs mois, mais elle nécessitait un accord de Bruxelles au nom du respect de la concurrence. Accord négocié et obtenu donc par Bercy, mais qui doit désormais être validé par le conseil d'administration d'Air France.
Merci Clément Le Saffre du service Écho d'Europe 1.
De nouvelles accusations contre le journaliste Pierre Ménès dans la tourmente depuis la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste.
Oui, invité ce matin sur Europe 1 pour parler de la saison 2 de la série Hippocrate au micro de Philippe Vandel. La comédienne Alice Belaïdi a à son tour livré un témoignage accablant.
Ce qui sort sur Pierre Ménès, sur moi aussi, j'ai été victime de sale bougnoule, salope, de la part de ce mec-là. Donc je me dis heureusement que voilà, la parole est enfin libérée pour nous les femmes et que ces mecs-là tombent, quoi, parce que ça suffit, quoi.
Pierre Ménès, quand il vous a dit ça, que vous lui avez-vous répondu ?
Mais je lui ai répondu, j'ai une vanne de tac au tac, c'est-à-dire que voilà, il me traite de bougnoule, il me dit que je traîne qu'avec des bougnoules, donc je me suis mise à son niveau en lui demandant, mais tu traînes qu'avec des gens gros, toi, par exemple, parce que moi, je suis arabe, mais je ne traîne pas qu'avec des arabes. Donc voilà, j'ai joué la grossophobie basique, comme je l'ai attaqué à son niveau, quoi. Et il l'a très mal pris, en fait, que j'ai de la répartie et que je lui réponde. Il m'a aussi traité de salope. Mais c'est grave, hein, c'est grave et c'est important d'en parler. Et je trouve ça très courageux que toutes ces filles du métier prennent enfin le micro et la parole pour parler de tout ça, parce que c'était indispensable.
Dingue ce témoignage de la comédienne Alice Belaïdi, qui était donc l'invitée de Philippe Vandel ce matin au micro d'Europe 1. En Russie maintenant, Vladimir Poutine a signé aujourd'hui la loi l'autorisant à faire 2 mandats supplémentaires.
Et oui, ça se passe comme ça là-bas, Poutine, qui ouvre donc la voie à son maintien au Kremlin jusqu'en 2036. Pourquoi s'arrêter à 4 mandats quand on peut en faire plus ? Un nouveau joueur forfait pour le quart de finale aller de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain mercredi face au Bayern Munich. Après Marco Verratti, c'est Alessandro Florenzi qui a été testé à son tour positif au Covid.
Et puis Isabelle, 18 sites retenus pour la loterie du patrimoine cette année.
Oui, 18 sites emblématiques, bien sûr, de métropole et d'outre-mer, et qui vont bénéficier d'un soutien financier grâce à cette 4e édition. Depuis 2018, 127 millions d'euros ont déjà été récoltés pour venir en aide aux sites retenus. Une aide ô combien bienvenue, hein, Alexandra Sirgan.
Oui, c'est notamment une très belle nouvelle pour le château du Haut-Buisson. C'est un domaine qui se trouve à Chéreaux, dans la Sarthe. Il date du 19e siècle. Il est resté très longtemps à l'abandon. Il a même été victime de vandalisme. Alors la mairie l'a racheté très récemment. Et pour le maire, Yannick Noël, ce loto, c'est une véritable aubaine qui va lui permettre de financer une partie des 3 millions d'euros de travaux nécessaires.
Ça va nous accompagner surtout financièrement. Dans un premier temps, il s'agit de sécuriser, de refaire la couverture du château, mais aussi remettre en place des menuiseries.
On peut très bien imaginer de restaurer le rez-de-chaussée qui pourrait à terme accueillir un éventuel musée. Ça nous permet de rêver avec cette manne qui nous arrive du loto du patrimoine.
Mais au-delà de l'aide financière, la nomination permet de mettre en avant des monuments méconnus, comme en témoigne Véronique de Spar. Le colombier de son château de Ville-Savin à Tours-en-Sologne a été restauré lors de la première édition en 2018.
Ça nous a permis de restaurer tout ce qui était couverture, tout le travail de la pierre. Donc là, on a un colombier qui est quasiment neuf. Et nous, on est entouré de 2 monuments incroyables qui sont le château de Chambord et le château de Cheverny. Et on est très à l'ombre, en fait, de ces 2 grands sites. Et là, cette mise en lumière a permis au château de Ville-Savin d'exister un peu plus.
Comme le château de Ville-Savin, 260 sites ont d'ores et déjà été sauvés avec le loto du patrimoine.
Merci beaucoup Alexandra Sirgan.
Super château Ville-Savin. Je parle en connaissance de cause.
À
merci.
À côté de chez vous.
À côté de chez moi. Vous savez tout. Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30. La météo, Anissa, une journée bien froide au programme demain.
Bah oui Julien, en quelques jours, nous sommes quand même passés d'une ambiance estivale la semaine dernière à une journée hivernale prévue donc pour demain. Avec la généralisation des gelées matinales, dans un instant je vous donnerai les températures demain matin, je peux vous dire qu'on va gratter les pare-brises. Attention au nord de la Seine au risque de verglas, tôt demain matin. Sur la moitié sud, il fera un petit peu plus doux, mais attention, la baisse des températures va aussi concerner les villes du sud de la France. En Normandie, en Île-de-France et dans le Grand Est, le ciel est couvert, menaçant, avec des averses dans l'après-midi, ces fameuses giboulées, donc de la pluie avec de la neige mêlée. On risque d'avoir quelques flocons en pleine demain qui ne tiendront pas au sol. En Auvergne et région Rhône-Alpes, là, le temps reste sec mais très couvert. Et puis, sur les Pyrénées, les Alpes, il neige à partir de 1200 mètres. Partout ailleurs, je vous rassure, le soleil est encore au rendez-vous. Dans l'après-midi, les giboulées arrivent donc sur la moitié nord. Et puis dans le sud, le Mistral et la Tramontane soufflent toujours de façon tempétueuse demain, puisqu'on aura des rafales jusqu'à 120 km/h. Les températures. Ouais, jusqu'à 120 km/h. Alors en rafale. C'est-à-dire que dans la journée, le Mistral va souffler à 80-90. Et de temps en temps, il y aura des coups de vent comme ça assez forts jusqu'à 120 km/h. Les températures, accrochez-vous. Il va faire froid demain matin. Moins 5 à Nevers, moins 3 à Blois, moins 2 à Aurillac et Besançon, 0 degré à Paris, 3 degrés à Cherbourg, 5 pour Bordeaux, 7 à Marseille et 11 à Ajaccio. L'amplitude est donc importante entre les moins 5 à Nevers et 11 pour Ajaccio. Et puis dans l'après-midi, 6 degrés seulement pour Saint-Étienne, 9 à Paris et Caen, 12 pour Bordeaux, 18 à Montpellier et la maximale de 19 degrés est prévue pour Bastia.
Hop, 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 ça y est, on a le moral dans les chaussettes. Merci Anissa, vous revenez quand vous voulez pour un nouveau point sur le temps. Voilà, on se retrouve dans 20 minutes, à tout à l'heure, 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h20, il est rabbin, fondateur de l'association Les Voix de la Paix. Il vient de publier un essai enthousiasmant sur la place des Juifs aujourd'hui en France. Bonsoir Yann Boissière.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors cet ouvrage, il s'intitule « Heureux comme un juif en France, réflexion d'un rabbin engagé » aux éditions Talendier. C'est déjà un élément important que vous livrez dans ce titre. On peut être juif et heureux en France aujourd'hui ?
Oui, alors le titre comporte un point d'interrogation. Et il est là toute la question. On aimerait pouvoir s'en passer. Malheureusement, dans les quelques décennies récentes, c'est pas toujours le cas et le point d'interrogation malheureusement conserve toute sa fonction. Mais oui, tout n'est pas noir ni blanc. Il y a une riche histoire juive en France, faite d'éléments dramatiques, mais aussi de belles pages. Et tout le sujet est de dire que, d'essayer de peser les choses.
Il y a des propos assez contradictoires dans le livre, on va en parler. C'est un ouvrage qui revient sur les questions profondes que traversent les Juifs de France, l'histoire, la Shoah, l'antisémitisme, le dialogue interreligieux, Israël évidemment. Mais il y a une expression que j'ai reprise qui se trouve dans le petit résumé qui est fait à la dernière page du livre. C'est un cri d'amour pour la France. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez écrit aussi, ce livre ?
Alors, cri d'amour est fort, mais il y a un amour de la France, il y a une très très profonde imprégnation de l'histoire juive en France qui est présente sur le territoire depuis deux millénaires, enfin avant même que les Francs ne donnent leur nom à ce doux pays. Il y avait des communautés juives, il y a une acculturation juive profonde. Les Juifs, à côté d'autres éléments de la population, y ont écrit des pages glorieuses. Oui, il y a un attachement profond à France. Je décris combien, dans les 200 dernières années, il est plus précis du fait que la France a été le premier pays à émanciper les Juifs, à leur donner la pleine citoyenneté. Ça compte énormément dans la psyché des Juifs en France. Évidemment, il y a quelques accros au contrat que je ne manque pas de raconter, mais il y a cet attachement profond, cet amour de la France, indéniablement.
Parce que Yann Boissière, il y a évidemment aujourd'hui dans notre pays un contexte et une montée, dites-vous, de l'antisémitisme, on en parle régulièrement et on s'en fait l'écho, c'est important de le dire, lié notamment à l'islam radical, mais aussi, on en parlera de l'islam radical, mais aussi à une partie de la gauche. Pourquoi pensez-vous que cet antisémitisme, il est, j'allais dire, consubstantiel à cette gauche radicale ?
Alors, je ne sais pas s'il est consubstantiel. Bon, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui varie à chaque époque. Il a une matrice de clichés profonds, éternels, on pourrait dire. Et puis, il s'habille dans la culture politique de l'époque. Il se trouve que la culture politique de l'époque...
Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été l'apanage de l'extrême droite. Est-ce que vous expliquez très bien. Et puis, l'histoire est là pour nous le rappeler.
Oui, mais il y a un antisémitisme...
Cet antisémitisme a évolué.
Oui, il y a un antisémitisme de gauche qui, historiquement, plonge ses racines chez Hegel, sans aller jusqu'au 19e siècle. Fourier, il y a le juif et le capitaliste par essence. Alors, pour l'autre côté, il est aussi le révolutionnaire en puissance. Donc, l'antisémitisme n'a jamais été étouffé par le sens de la contradiction, ça c'est certain. Mais auprès d'une certaine gauche, il s'est habillé d'antisionisme à l'époque. Et c'est ça que la gauche, sans doute, une certaine gauche, en tout cas, a épousé dès 82, avec le livre Finkielkraut appelle Opération Paix en Galilée, 82. Il y a eu une sorte d'inversion qui racontait que les Israéliens commettaient des exactions, exactement les mêmes exactions que peut-être les nazis avaient commis envers les juifs la Seconde Guerre mondiale. Il y a une sorte d'inversion des victimes et des bourreaux, et tout un discours s'est engouffré dans cette...
Antisionisme, c'est être antisémitisme ?
Alors, ça dépend comment, où on place l'antisionisme. La critique d'Israël, de la gouvernement de la politique israélienne est tout à fait légitime. Critiquer la légitimité de l'État d'Israël, oui. C'est une ligne rouge tout à fait majeure, effectivement, qui peut s'habiller effectivement d'un caractère antisémite assez facilement. Quand on en vient à remettre en cause la légitimité, oui. Alors que l'État d'Israël est le fruit d'accords internationaux et d'une histoire longue, oui. Quand par principe on semble s'y opposer, alors il y a quand même anguille sous roche et immanquablement, très souvent, on détecte très facilement l'antisémitisme affleurant.
Alors on rappelle que les actes antisémites sont en progression malheureusement dans notre pays, 687 faits comptabilisés par les services de police en 2019 contre 541 en 2018, qui représente une augmentation de 27%. Rappelons aussi que les Juifs de France sont la troisième communauté mondiale après les États-Unis et Israël. Ils sont dans notre pays, dans l'Hexagone, entre 500 000 et 600 000. Avec un phénomène qui illustre cette crainte des Juifs de France, c'est l'Alia, le fait d'émigrer vers Israël, vous en parlez également. Entre 2000 et 2017, j'ai retrouvé les chiffres, plus de 55 000 juifs ont quitté la France. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que rabbin, à ces familles qui vous disent « j'ai envie de partir parce que je ne me sens plus en sécurité dans mon pays, la France ».
Alors, l'Alia, au départ, c'est un choix personnel, de toute façon. C'était un très beau choix. Enfin, je veux dire, si quelqu'un décide de vivre sa judéité ou un aspect de sa judéité en Israël, c'est quelque chose d'effectivement de très positif. Le mot Alia veut dire monter, donc connaître une connotation positive. Maintenant, il est certain que depuis les années 2000, dans ce contexte que vous venez de rappeler, c'est plutôt le sentiment d'urgence. Peut-être que ça a accéléré des volontés, existantes. Je les admets, je les accepte, je peux les comprendre. Le discours que j'essaye de développer dans le livre, c'est que les Juifs de France ont une histoire à continuer ici. Ça, c'est le point de vue central. Maintenant, les difficultés, on ne saurait les nier. Et que dire à une personne qui, au quotidien, peut-être dans une banlieue, vit l'antisémitisme au jour le jour ? Je ne suis pas là pour juger, en tant que rabbin, la vie, la prise de position des gens. Je peux la comprendre.
Oui, et vous y rappelez d'ailleurs, puisque vous en parlez à l'instant, l'attachement des Juifs de France à la République et de la République à la communauté juive, à l'inverse, malgré une histoire complexe, avec la force des symboles. Vous revenez par exemple sur la dégradation du capitaine Dreyfus. Il y a aussi eu, dites-vous, sa réhabilitation. Et vous citez Emmanuel Levinas du Fonds d'un pays balte qui dit ceci, un pays dans lequel on réhabilite un petit capitaine juif est un pays où il faut aller.
Absolument, il y a eu les pages sombres, les pages terribles, mais il y a eu aussi cette fin finalement assez heureuse. Je dis, quand la République française se chauffe du droit bois, de la justice et de la liberté humaine, eh bien ça donne effectivement la réhabilitation du capitaine Dreyfus, qui a été très important, même politiquement, qui a ouvert les yeux sur une certaine culture antisémite en France. Il se trouve que là, la réhabilitation a été jugée comme très positive et a constitué un point d'attrait pour beaucoup de juifs qui, plus à l'est de l'Europe, vivaient de franches tyrannies.
Une question donc, peut-être plus personnelle, Yann Boissière. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, après la mort de votre mère, je crois, de vous convertir au judaïsme, un judaïsme libéral, mais pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin ? C'était en 82 ?
80... c'était, alors c'est un peu plus tard, en 89, paix à son âme. Oui, non, alors là, c'est un chemin entièrement personnel. Ça a été une vibration personnelle totale.
Mais pourquoi vous en avez ressenti le besoin ?
Pardon ?
Pourquoi vous en avez ressenti le besoin ?
Alors, c'est pas un besoin. Ça, c'est les mystères de la vie. C'est que dans la vie, on rencontre des événements ou des rencontres ou des choses que l'on n'attend pas. C'est de l'ordre de la rencontre quand on rencontre une personne que l'on aime. Voilà, on ne l'attend pas par définition.
Et vous avez
ensuite,
rencontré
après,
la foi.
On reconstruit rétrospectivement peut-être une sorte de cohérence. Oui. Ça, c'est les mystères de la vie. Ce qui fait que la vie se déroule parfois par révélation. Je me suis révélé à moi-même en tant que très très proche de ce qu'était le judaïsme, et me révéler à moi-même en tant que juif, mais ce n'est pas quelque chose dont j'avais besoin, en fait.
Oui. Il y a une phrase très forte sur l'islam radical que vous prononcé, qui est assez dur, on devrait, page 39, on devrait pouvoir dire sans trembler que l'antisémitisme d'origine musulmane est un fait culturel.
Oui, il faut séparer les mots, il faut être très clair. Nous avons, la culture religieuse a disparu dans ce pays à la suite d'un combat, une laïcité de combat.
Mais un fait culturel.
Ce qui est très dommageable, parce que quand le religieux revient dans la société de la pire manière, à travers les attentats, on n'est plus du tout à même de poser les bons mots au bon endroit. Soit par crainte d'anti-islamiste, on ne dit pas, on ne dénonce pas les choses que l'on devrait dénoncer, ou alors on se livre au racisme. Donc l'islam, c'est une chose, l'islamisme, c'en est une autre. L'islam radical en est une autre. Ce que je dis, c'est d'abord que l'islamisme n'est pas l'islam, mais c'est une maladie de l'islam. Ça, il faut pouvoir opérer cette subtilité. Ce n'est pas l'islam, mais c'est une maladie de nulle autre chose que l'islam. Ensuite, concernant la phrase que vous citiez, c'était le...
On devrait pouvoir dire sans trembler que l'antisémitisme d'origine musulmane est un fait culturel.
C'est un fait historique. L'avantage de ce genre de phrase, c'est qu'on ne l'attribue pas à l'ADN des peuples. Ce n'est pas dans l'ADN des peuples arabes, pas plus que pour n'importe quel autre peuple. Mais il y a des cultures, effectivement, qui se sont développées, qui se sont agrégées. La culture du Dhimmi, qui a codifié l'infériorité. Des peuples du livre, et c'est un fait historique, tout simplement.
Bien, merci Yann Boissière d'avoir été avec nous. Heureux comme un juif en France, réflexion d'un rabbin engagé aux éditions Talendier. Merci à vous.
Merci. Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, le rappel des titres et le débat des grandes voix, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Les révélations ce soir de Monique Olivier dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin, l'ancienne compagne de Michel Fourniret, aurait reconnu pour la première fois avoir joué un rôle dans la séquestration de la petite fille dans les Ardennes, alors que des fouilles ont repris en fin de semaine dernière sur ses indications. De la tolérance pendant quelques minutes encore pour ceux qui rentrent du week-end pascal, mais à compter de 19h, c'est terminé. Déplacement interdit, sans attestation au-delà de 10 km autour de votre domicile. Air France va obtenir un deuxième soutien financier de l'État validé par l'Europe, un plan de plusieurs milliards d'euros, mais en contrepartie, la compagnie devra abandonner des créneaux à la concurrence à l'aéroport d'Orly. Conseil d'administration en ce moment chez Air France.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Un coup d'œil au temps avant de passer aux grandes voies. Anissa, des gelées, des giboulées et du vent fort pour demain.
Un programme peu réjouissant pour demain. Les gelées matinales vont concerner les régions situées sur la moitié nord. Pour les giboulées, elles arrivent demain après-midi en Normandie, Hauts-de-France et le sud du bassin parisien. Et les vents forts dont vous parliez, Julien, vont concerner surtout le sud de la France, Mistral et Tramontane, qui pourraient souffler jusqu'à 120 km/h demain après-midi.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Allez, place au débat des grandes voix du lundi de Pâques, avec ce soir mes côtés Charles Villeneuve, qui a mangé beaucoup de chocolat, paraît-il, hier. Bonjour Charles.
Noir,
oui. Chocolat noir. Étienne Girard, rédacteur en chef société à L'Express. Bonsoir Étienne, merci
bonsoir,
d'être
Julien.
Là. Jean-Rémy Baudeau, journaliste au service politique d'Europe 1. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors, reconfinement acte 3. Cette fois, ça y est, nous y sommes, après un week-end de tolérance. Dans quelques minutes, à partir de 19h, il sera donc interdit de circuler à plus de 10 km de son lieu de résidence, sauf à quelques exceptions. Alors, les Français vont-ils jouer le jeu ? On va en parler. Je voudrais d'abord commencer par l'une de ces nouvelles règles de ce reconfinement qui est vécue par certains Français comme une injustice. On écoute Jean Castex à l'Assemblée nationale. C'était juste avant ce week-end.
Si l'immense majorité de nos concitoyens respecte spontanément les règles en vigueur, une minorité d'entre eux s'y refuse. Nous veillerons notamment à ce que l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique soit respectée. La consommation d'alcool sur l'espace public sera interdite.
Voilà, et je voudrais qu'on commence par cette photo que vous avez peut-être vu passer sur Internet. Surréaliste, c'est en une du quotidien Midi Libre. 17 gendarmes, armes au poing, sur la plage de la Grande Motte pour faire la chasse aux bouteilles d'alcool, avec le témoignage d'une famille qui a pris 405 euros d'amende parce qu'il était en train de boire du rosé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Charles Villeneuve ?
Ça m'inspire que c'est un excès de zèle. Je trouve insupportable pour des Français qui m'épatent, moi, personnellement, qui sont plus que raisonnables, qui ont depuis plus d'un an subi quelque chose d'assez difficile, d'assez dur.
Oui.
Rappelons-nous le premier confinement, un deuxième confinement un peu plus aéré, un troisième confinement aujourd'hui, et je me demande s'il se retrouve entre les restrictions de liberté, les changements de règlement, etc., etc. Alors qu'une famille se rassemble sur le sable, pas très loin de Montpellier, j'imagine, sur une des plages.
Oui, à côté de la Grande Motte. Parce qu'on n'était pas du tout en mode carnaval de Marseille, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'était plutôt calme et raisonnable.
Et qu'ils boivent un petit coup de rosé, et que vous avez une cohorte de 17 gendarmes qui se précipitent avec une photo impressionnante. C'est des gendarmes ?
Oui.
Oh, ça me fait de la peine parce que je les trouve quand même souvent assez raisonnables.
Alors, je vous pose la question, c'est un épiphénomène, mais quand même symptomatique d'un état d'esprit général. Parce que là aussi, Étienne Girard, il y a la question de la lisibilité de la communication et des annonces. On nous dit qu'on fait confiance à la responsabilité des Français, on nous dit sortez dehors car les risques de contamination sont moins élevés, et puis dans le même temps, on sanctionne parce qu'on boit un verre de vin ou une bière.
Oui, mais ça ne peut pas marcher, ce discours. Ça peut pas marcher. En France, ça ne marche pas, le discours simplement de la responsabilité. On vous fait confiance. On a bien compris que ce qui marchait, et c'est terrible à dire, et il faut sans doute le faire avec discernement, mais c'est la sanction à la règle. Sinon, ce n'est pas une règle.
Oui.
Sinon, c'est une recommandation.
Oui.
Et on sait bien que les recommandations sont aussi faites pour ne pas être forcément suivies.
L'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique, est-ce que c'est judicieux dans le contexte actuel ?
Oui, il y a l'idée que quand on est avec ses proches et qu'on partage un verre de rosé ou de bière, on va finir par se rapprocher et que donc, bien qu'on soit à l'extérieur, on va avoir des gestes qui ne sont pas des gestes barrières. Ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on passe d'une certaine manière du tout au rien. D'une manière, maintenant, les mesures, elles sont relativement lisibles, on a bien compris, on est enfermé dehors d'une certaine manière, on doit être dehors, mais maintenant on passe aux amendes, en notant néanmoins qu'en France, elles sont beaucoup moins élevées qu'ailleurs. Donc ce qui nous fait bizarre là, dans le débat qu'on a ce soir, c'est que d'une certaine manière, les amendes, elles tombent. Et effectivement, moi je me mets à la place des gens qui sont sur la plage et qui se prennent 400 euros pour avoir bu du rosé. Évidemment, c'est l'incompréhension, elle est totale. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu peut-être un peu de pédagogie les premiers jours, comme ce week-end pour les déplacements, et qu'après on dise, la fête est terminée, fini la bamboche, comme avait dit un préfet.
Et de discernement, parce que faire la fête sur les bords de Seine à 200 un peu avinés, en oubliant les gestes barrières, en oubliant le masque, c'est pas tout à fait pareil que de boire un verre sur une grande plage au grand air, Charles Villeneuve. D'une manière plus générale, est-ce que vous pensez que les Français vont jouer le jeu de ce reconfinement ? Un sondage est paru il y a quelques jours qui nous dit que 7 Français sur 10 approuvent les mesures annoncées mercredi par le chef de l'État, mais dans le même temps, près de la moitié, 46%, pensent ne pas les respecter scrupuleusement.
Mais franchement, il y a quand même une lassitude, ce qu'on peut comprendre. De toute façon, cette lassitude va certainement se manifester telle que vous l'avez dit, c'est-à-dire que les gens approuvent les... Bon, et c'était typiquement en France, ça. La règle, c'est la règle, on va la respecter. Duralex, c'est de l'ex, c'est de l'ex. Hein, d'accord. Bon. Mais c'est le peuple dont on nous dit, de toute façon, qu'il est le plus grand consommateur d'anxiolytiques.
Oui.
Et bien, quand on regarde les courbes, parce qu'il n'y a pas que les courbes de la réanimation, les courbes de la surconsommation médicamenteuse aussi, mais il n'y a pas de surconsommation. Donc, je trouve, c'est la raison pour laquelle je trouve les Français extrêmement résistants à tout ce qu'ils vivent depuis un an.
Et, puis,
il faut être un peu plus relax.
Bon, il y a un petit paradoxe aussi très français, c'est vouloir des règles, mais vouloir dans le même temps de s'en affranchir. C'est ce que vous disiez. Mais quand même, on ouvre là 4 semaines qui vont être déterminantes pour la maîtrise de la circulation du virus. Et moi, je rejoins ce que disait Charles Villeneuve. J'ai plutôt le sentiment que depuis un an, les Français ont fait preuve d'un grand flegme et d'un respect total et quasiment entier, à quelques exceptions près, de ce confinement et des règles en vigueur.
Absolument. Et pour reprendre le mot de Charles, il y a quelque chose d'épatant dans la réaction des Français qui respectent quand même dans leur immense majorité toutes les règles sanitaires qui leur sont imposées. Si je vois quelque chose qui pourrait craquer, c'est y avoir dans le sentiment d'injustice. Ce qui s'est passé autour du carnaval, à mon avis, peut dérégler le lien social entre l'autorité, la police et les gens, si la population commence à avoir l'impression que le fait de bafouer les règles sanitaires n'est pas sanctionné, ou en tout cas que des Français qui iraient boire du rosé en famille seraient davantage sanctionnés que des Français qui iraient en manifestation, parce que c'est plus facile.
Il a raison. C'est très important,
rosé.
Ça. Oui. Les Français détestent les privilèges.
Question de l'exemple, tout ce qu'on a noté ce week-end autour des fameux dîners, ont-ils existé, y avait-il des ministres ou pas ? Cette question-là est centrale. Si on se retrouve avec l'information...
En tout cas, il y a l'ombre du soupçon maintenant.
Maintenant, il y a du soupçon, mais s'il y avait effectivement des ministres ou des anciens ministres éventuellement, eh bien ça enverrait un signal à la population qu'il y a deux poids, deux mesures. Et ça, c'est insupportable.
Alors, on reste ensemble, 18h40, on marque une courte pause, on continue d'en parler. Et puis, on parlera aussi de cette interview hier soir d'Edouard Philippe. Va-t-il se lancer ? Va-t-il soutenir le président de la République ? La grande inconnue pour 2022. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du débat des grandes voix du lundi, 18h41, avec toujours Charles Villeneuve, Étienne Girard de L'Express et Jean-Rémy Baudeau, journaliste au service politique d'Europe 1. Alors, on parle donc d'Edouard Philippe. Après presque un an de silence, le voici de retour avec son livre Impressions et lignes claires, coécrit avec son ami et député européen Gilles Boyer. Et la grande question, évidemment, c'est de savoir quelles sont ses intentions pour la suite et notamment pour 2022. Début de réponse sur le plateau du 20h de France 2 à la question posée par le journaliste Laurent Delahousse qui lui dit ceci: je lis souvent ce genre de choses, je ne crois pas l'avoir dit, en tout cas je ne suis pas sûr de l'avoir dit publiquement. Voilà ce qu'il a dit, écoutez-le.
Je crois que je lis souvent ce genre de choses, je n'ai pas le sentiment de prononcer ces phrases, et d'ailleurs je vous le dis parce que je le pense sincèrement. Je ne crois pas l'avoir dit, En tout cas, je ne suis pas sûr de l'avoir dit publiquement.
Voilà, il répondait à la question: de toute manière, je ne serais pas candidat, sauf si Emmanuel Macron ne l'était pas. Donc il n'est pas sûr, l'ancien Premier ministre, de l'avoir dit publiquement. Jean-Rémy Baudeau, que faut-il en penser de cette intervention ? Parce qu'à la sortie de cette interview, on ne sait pas trop.
Non, on ne sait pas trop, il joue l'ambiguïté, il laisse planer le doute. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'une manière générale, Edouard Philippe, il maîtrise le récit. Et c'est quelque chose, avec son entourage... qui est resté quand même extrêmement soudé autour de lui. Il faut quand même se rendre compte que l'entourage qu'il avait à Matignon, aujourd'hui, ils sont tous un peu partout, en dehors de la politique ou pas, mais ils restent extrêmement soudés et ils sont tous derrière leur poulain, d'une certaine manière, à la manière de ce qui s'est toujours passé autour d'Alain Juppé, c'est-à-dire on reste soudés, il n'y a pas une phrase qui sort, pas un off, pas une phrase, rien sur Emmanuel Macron. La loyauté qui est mise en avant par Edouard Philippe, depuis le début d'ailleurs, depuis son arrivée à Matignon, cette loyauté, elle existe, elle est quasiment incroyable. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste politique...
Ça présage de ce qui va se passer pour la suite, ça veut dire que quoi qu'il arrive... il ne sera pas candidat ou il n'essaiera pas d'être candidat
face à Emmanuel Macron.
Moi, je n'ai pas eu cette impression, si vous voulez. Moi, je dirais qu'il était le parfait exemple illustratif d'un proverbe des producteurs de fleurs de ma région, dans le Var, qui fait l'ange, fait la bête. Et il n'est pas venu sur France 2 pour être clair, sharp, comme disent les Anglais, c'est-à-dire clair, net, tranché. Non, il est venu... il a laissé toutes les portes ouvertes.
Oui.
Et d'ailleurs, il n'est pas sûr de ne pas avoir dit. D'ailleurs, c'est ça qui m'a frappé. C'est qu'il n'est pas sûr. Il n'a pas tranché catégoriquement. Non, je n'ai jamais dit ça, de toute façon.
Oui.
Non.
Oui.
Il a dit, oh, je ne suis pas sûr de tout, etc.
Non, mais on ne va pas se mentir. L'Élysée, il y pense forcément. Vous savez ce que disait Pompidou. Pompidou disait, j'ai commencé à penser à être président de la République le jour où j'ai monté les marches de Matignon. Être à Matignon, ça donne des ailes.
Mais 11 des premiers ministres de la 5e République, de Michel Debré, de toute façon, à Cazeneuve, ont pensé à être président de la République, après avoir occupé l'hôtel de Matignon, occupé celui de l'Élysée.
C'est un pragmatique, quand même, Edouard Philippe. Quel est son espace politique ? Son espace politique, en dehors d'Emmanuel Macron, il est inexistant. Oui. Il est populaire, mais
54% des Français ont une bonne image de lui, selon Elabe, et l'ancien Premier ministre est la seule personnalité politique qui recueille plus de 50% d'opinions favorables. Quel est votre sentiment à vous, Étienne Girard ? Ira ou ira pas ?
Ira pas, mais son équivoque était tout de même très parlante. Parce que Edouard Philippe, on a appris à le connaître, on sait qu'il est extrêmement clair quand il veut. Donc s'il n'a pas été clair hier soir, c'est qu'il ne voulait pas être clair. Et donc qu'est-ce qu'il veut si on raisonne? On a appris à les connaître, ces animaux politiques. Ils se positionnent en dauphin, ça me semble très clair. C'est-à-dire...
Il veut peser.
Le remplaçant, si d'aventure Emmanuel Macron, pour raison X ou Y, on sait que ça peut arriver dans la 5e République, une raison X ou Y, ne pouvait pas y aller. C'est très clairement, et au fond, son ambiguïté et son absence de clarté est très claire sur ses intentions. Donne une vraie clarté sur ses intentions.
Mais vous vous souvenez que pendant les conférences de presse, quand il était Premier ministre sur la Covid, il y a un élément qu'aimaient beaucoup les Français, c'est quand il disait écoutez, là-dessus, je ne sais pas. Il aurait pu dire ça hier soir. Après. Écoutez, Laurent Delahousse, pour l'instant, je ne sais pas.
Mais d'abord, il est venu nous dire qu'il ne serait pas l'ermite du Havre. Ça, c'est évident. Deux, pour aller dans ton sens, je pense qu'il vient en dauphin capable d'être celui auprès de la droite, notamment classique, car il a une insolente popularité.
Devant Sarkozy dans certains sondages.
Bien sûr, il est là pour la faire fructifier. Il a même passé Hulot en popularité pure. Or, il faut savoir que la droite classique, elle est en recherche d'un dauphin pour occuper le trône de l'Élysée.
Il plie le match si jamais il y va.
Comment ?
Beaucoup disent il plie le match. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, tout ça, c'est balayé. Il est tellement populaire et apprécié qu'il plie le match, à droite en tout cas, s'il décide d'y aller.
On vous dira ça après les régionales pour Xavier Bertrand.
En tout cas, il y a quand même quelque chose qu'il a répété, qui était la une du Point dans cette grande interview qu'il a donnée il y a quelques jours. J'aime être aux manettes, j'aime diriger, j'aime faire, j'aime être dans l'action. C'est ça qu'on entend derrière.
C'est ça qu'on entend et effectivement, ça n'a pas changé d'une certaine manière. L'Édouard Philippe qu'on a vu dans les conférences de presse, mais pendant 3 ans à Matignon comme ça, il n'a pas changé. Il est toujours dans ce récit-là, dans cette maîtrise-là. Moi, ce qui m'a vraiment frappé hier soir et après, quand j'en ai parlé avec des ministres, c'est la réception de ce message-là.
Oui.
Et beaucoup, par exemple, j'ai un ministre qui me disait, je vous cite quand même, c'était une mauvaise séance de psychanalyse. On dirait qu'il veut se libérer, mais qu'il n'ose pas. Donc, il est quand même très attendu par la Macronie, qui le regarde quand même du coin de l'œil. Je pense qu'ils savent qu'éventuellement, ils pourraient avoir besoin de lui. On me dit aussi qu'il est très utile pour le président, mais que quand même, il garde un œil sur lui parce qu'il ne faudrait pas qu'il aille trop loin.
Mais c'est pour ça que pour eux, c'est préoccupant, la séance d'hier. Parce que justement, il n'a pas tranché, il n'est pas clair.
Bien sûr.
Et c'est la raison pour laquelle vous êtes deux observateurs attentifs de la vie politique. Vous savez très bien, de toute façon, parce que vous excluez complètement de le voir faire ce que le président de la République a pu faire à François Hollande.
Oui,
parce qu'il n'y a pas d'espace politique pour ça. Si Emmanuel Macron n'est pas candidat, alors là, l'espace va se rouvrir. Mais qu'est-ce qu'il apporte de plus aujourd'hui que n'apporte pas Emmanuel Macron? Rien.
Bien, on aura
Philippe ne peut pas être le Manuel Valls de Hollande.
La clarté qu'a perdu un tout petit peu le président de la République.
Bien, merci messieurs. 18h48, vous restez avec moi. On continue de parler des polémiques du week-end avec la politique urbaine d'Anne Hidalgo qui clouait au pilori. Voilà, je vais y arriver, décidément, ce lundi de Pâques, avec le hashtag Ça cache Paris. c'est le chocolat. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, le débat des grandes voix suite avec Charles Villeneuve, Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, et Jean-Rémy Baudot, journaliste au service politique d'Europe 1. Alors, c'est le hashtag, je voulais terminer par ça, qui a animé Twitter tout le week-end, Ça cache Paris, et qui compile les photos de la saleté dans la capitale et de ses aménagements parfois chaotiques, comme certains bacs à fleurs qui se transforment en toilettes publiques pour SDF notamment. Alors, la mairie de Paris, elle, dénonce une campagne de dénigrement instrumentalisée par la droite. Au-delà de la réalité, Jean-Rémy Baudot, c'est une forme de guerre de communication à laquelle on assiste ?
Je pense qu'ils ont été un peu pris... je pense qu'ils n'ont pas vu monter le truc, parce qu'il faut se rendre compte que... Alors, c'est peut-être, je le vois moi parce que je suis parisien et que je suis sur effectivement les réseaux sociaux, mais cette thématique de Paris est sale, ça cache Paris, c'est pas la première fois qu'il y a un compte Twitter qui essaie un peu de lancer le mouvement. Sauf que c'est la première fois que ça prend une telle ampleur. Et en quelques heures, en quelques jours, il y a eu des centaines de photos, en tout cas des dizaines de messages. Et la saleté, et surtout effectivement les contestables aménagements qu'il y a parfois dans Paris avec des bacs à fleurs, des palettes qui sont utilisées pour faire des aménagements, etc. etc. Le manque d'entretien de la voirie.
Des expérimentations ratées.
Oui, disons ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a été récupéré politiquement après. C'est-à-dire que ça a d'abord vécu sur le net. Ensuite, ça a été récupéré effectivement par la droite.
Il y a une volonté politique de nuire ou pas, selon vous ?
Au départ, alors je ne sais pas qui est derrière ce premier compte, mais
parce
quand
qu'il y a
on
lit sur l'origine du premier compte.
Ah ben oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que quand même, elle a été élue confortablement à Paris.
Bien sûr.
Elle a été ratifiée totalement à Paris, indéniablement, avec une grosse différence par rapport à son opposition de droite. Bon, et qui est derrière? C'est ça la vraie question. J'espérais d'ailleurs que tu allais le découvrir et nous le dire, toi qui es parisien.
Non, on a dit à un moment que c'était un élu Les Républicains avant qu'il.
Je pense que ça se serait pas fait comme ça si ça avait été un élu Les Républicains. Je pense que parce que ça monte de manière relativement spontanée, sans que ce soit. Sans que ce soit au départ tiré d'un point de vue politique. C'est récupéré ensuite d'un point de vue politique. Et la réponse, je trouve, de la mairie de Paris aujourd'hui ou hier, enfin il y a quelques heures, est très intéressante parce qu'ils attaquent sur un truc qui est complètement de biais. Ils partent sur un autre sujet. Ils disent « Non, non, mais si c'est sale, c'est parce que d'une manière générale, les Parisiens sont sales, ça c'est un peu le leitmotiv à la mairie de Paris. Et puis, c'est aussi qu'à cause du Covid, eh bien, les agents de la voirie, ils sont pas tous disponibles. Et en fait, donc, ils évitent d'aller sur le débat de on met
réalité,
en place des trucs.
Ce qui est une réalité, je crois qu'il y a 15% d'agents de la propreté.
Oui, mais c'est
10%,
effectivement. Mais sauf que le problème de la propreté à Paris, c'est un problème de très long. La question de Anne Hidalgo avait promis de transférer une partie des compétences vers les maires d'arrondissement, ce qui n'est toujours pas une réalité. Donc en fait, la question de la propreté, elle est là depuis très longtemps. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir cette réponse de la maire de Paris.
J'ai une question à vous poser, et notamment Charles Villeneuve, qui est le plus ancien d'entre nous et qui a donc une mémoire aussi de la ville de Paris. On a toujours parlé de la propreté à Paris. Est-ce que il y a vraiment un problème à Anne Hidalgo et de ce point de vue-là, parce qu'on se souvient que Bertrand Delanoë, à l'époque, en faisait déjà les frais. On se souvient de Yves Contasso, qui était adjoint au maire PS de Bertrand Delanoë, qui réclamait 600 agents de propreté supplémentaires parce que Paris était très sale. Idem, Jacques Chirac, qui lançait en 82, à grand renfort de communication, les fameuses motocrottes, vous vous souvenez, car à l'époque, le problème de la propreté, c'était aussi les petites crottes des chiens sur les trottoirs. Est-ce qu'il y a un problème de la propreté aujourd'hui ou ça a toujours
été
le cas ?
C'est une question récurrente, quels que soient les régimes qui ont gouverné Paris. C'est une question récurrente. Alors, plus ou moins, est-ce que cette saleté s'étend ?
Oui.
Je pense qu'elle a gagné maintenant un certain nombre d'arrondissements où c'était pas aussi sale que ça l'est aujourd'hui. Mais c'est une question récurrente, aussi bien sous Jacques Chirac qu'évidemment avec ses successeurs. Mais je me demande, mais il y a quand même, je voudrais juste revenir, Julien, sur l'aspect politique. Est-ce que ça n'est pas l'entrée dans la campagne présidentielle de la maire de Paris qui déclenche aussi ça ?
Réponse, Étienne Gérard, sur ce point ?
Moi, ce qui me frappe, c'est le mot « saccage ». Le mot « saccage » est trop fort. On aurait pu parler de « laideur » Paris. Le mot « saccage »
Oui, parce qu'il y a deux points de critique. Il y a la saleté à proprement parler, et puis aussi...
L'urbanisation.
C'est une expérimentation un peu chaotique. Enfin, il faut dire les choses. Moi, j'habite Paris-Est, qui est un quartier très populaire, où il y a des expérimentations qui ont été menées, avec des espèces de bacs de verdure, avec une improvisation aussi de toilettes publiques, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sans-domicile fixe qui urine à l'extérieur. Et donc, des expérimentations ont été menées, mais qui sont peu concluantes, on peut le dire.
Ah oui, il y a des mobiliers urbains qui sont particulièrement laids, il y a des expérimentations particulièrement gadgets. Je pense aux pots de fleurs dans des poteaux dans certains arrondissements. On se demande ce que ça fait là. C'est ridicule, effectivement. De là à parler de saccage,
oui, c'est ça.
C'est un peu trop fort. Mais Anne Hidalgo, je ne sais pas si c'est en lien, elle a toujours suscité
une série dans les réponses. La sémantique est importante dans cette affaire. La sémantique, moi j'ai dit, saleté, c'est saccage. En effet,
Jérémy Baudot.
C'est fort. Moi, il y a un point qui me frappe dans la réponse politique de la mairie de Paris et de la gauche, d'une manière générale, la gauche parisienne, c'est de dire cette polémique, elle vient de la droite et de l'extrême droite. Et c'est intéressant si on fait le lien avec ce qui s'est passé à Poitiers ces derniers jours aussi, sur le fait que les écologistes prennent des positions. On ne va pas y revenir, mais la critique, dès qu'il y a de la critique, c'est « vous êtes l'extrême droite ». Et donc, il y a une espèce de truc qui est en train de monter, qui est que dès qu'on est contre Anne Hidalgo, dès qu'on est contre les écologistes, on est forcément d'extrême droite. Et ça, je trouve que dans le discours, c'est très intéressant à décrypter, parce que c'est un argument qui est facile et qui, d'une certaine manière, c'est un peu le point Godwin en fait, c'est le point zéro, en réalité, du débat politique. À partir de ce moment-là, vous tuez le débat politique. Et c'est ce qu'essaie de faire la mairie de Paris. Toute la journée, les adjoints à la mairie ont posté des photos de Paris magnifique, et des gens repostaient des photos en disant, la carte postale que vous voyez, voilà la réalité.
Ça dépend où on habite, enfin, on peut dire les choses clairement, hein, dans le 8e arrondissement,
il n'y a pas de papier par terre,
alors que dans le 10e,
c'est moins vrai, hein.
ou dans Paris-Est,
même dans le 8e.
Mais venez faire un petit tour à Paris-Est, vous verrez.
Non, mais manger par terre dans le 8e, je vous mets au défi de le faire.
et moi, je m'inscris en faux sur l'argument qui est de dire, il y a une incivilité des Parisiens, si on offre un cadre de vie propre, les gens respecte aussi ce cadre de vie, non ? Vous ne pensez pas ?
Si.
Oui, bien sûr. Mais si on essaye d'élargir, là où c'est intéressant, c'est que ça nous donne un avant-goût de ce que sera la campagne si Anne Hidalgo est candidate à la présidentielle. C'est-à-dire des polémiques sur son bilan à Paris, oui. tous les jours, oui. à grand renfort, des deux côtés, oui. de gros artifices de communication.
Bien, je note qu'Étienne Girard n'a pas voulu nous dire si Paris était propre ou sale, selon... On n'a pas voulu prendre position sur le fond.
Il y a
beaucoup de forme, mais pas de fond, là, sur ce débat.
Je ne trouve pas que c'est si sale que ça. Effectivement, ça dépend des arrondissements, mais il y a tellement de disparités que je me garderais bien, effectivement, d'être trop tranché sur la question.
Merci à tous les trois. Merci d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du lundi.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, dans quelques secondes, le journal, 19h, et puis dans le Club des idées, grand débat ce soir sur le cannabis business, qui connaît, vous le verrez, un succès fulgurant. On en parlera avec nos invités. À tout de suite.